Donc, Ésaïe au chapitre 26. On était dans le sujet de la paix la dernière fois et on va le retrouver. On faisait allusion à l'instant à la guerre en Ukraine. Alors, quelle va être l'issue de cette guerre en Ukraine? Il y a beaucoup de personnes, je crois, qui voudraient le savoir, hein. Bon, peut-être les journalistes se disent, mince, si on savait tout à l'avance, on n'aura plus de travail, on ne pourra plus faire de commentaires. Est-ce que vous avez envie de connaître l'avenir? Est-ce que la connaissance de l'avenir pourrait changer notre présent? C'est intéressant. Par ses prophètes, Dieu nous révèle l'avenir. Et le message de ce jour, le titre du message que j'ai choisi, c'est un long titre. Hein. Un jour, le grand jugement de l'humanité viendra. Et aujourd'hui, recevons la paix du Dieu souverain et parlons-lui. Parlons-lui. Alors, un contexte pour ce livre. J'allume le rétroprojecteur. On gardera l'image sous les yeux. J'y ferai référence au grand récit dont on parlait la dernière fois. C'est un très long livre, hein, le livre d'Ésaïe, 66 chapitres. Ésaïe a vécu entre le 7e et le 8e siècle. Le 7e et le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et Dieu lui donnait des messages pour avertir, pour encourager, pour exhorter le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Et aussi pour lui présenter le Messie à venir. Dieu voulait présenter Jésus-Christ à son peuple, déjà 800 ans avant qu'il arrive, ce qui allait permettre aux Israélites de vivre dans la perspective de l'éternité. Alors le grand récit qu'on avait vu la dernière fois est là, il y a l'histoire d'Israël avec le partage du royaume après le règne de Salomon, la succession des rois de Juda ici et la succession des prophètes de l'Éternel qui ont été consignés dans la parole de Dieu et ici le long ministère d'Ésaïe, du temps de Jotham, Akaz, Ézéchias. Et on sait qu'il a fini sa vie persécuté par Manassé. Le chapitre 26, après le chapitre 25, et là, on trouve cette expression « en ce jour-là ». Et ce « en ce jour-là » nous place dans le futur plus ou moins lointain. Et le chapitre 26, en tout cas, le premier passage, on retrouve cette expression. Et on est situé, vous le verrez, dans le futur lointain. On va être ici dans l'accomplissement quelque part, dans la nouvelle création, bien loin de d'Ésaïe dans le temps, et pour nous également peut-être ou peut-être pas. Je vais lire les 6 premiers versets. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous a donné le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel, L'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il l'a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Un portrait, une sorte de description, une scène du futur où nous avons trois informations majeures. La première info, c'est qu'il y aura une ville sûre et accueillante pour les justes. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. De quelle ville s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de la Jérusalem antique de l'époque ? On sait qu'elle a disparu. Il n'en reste que quelques pierres. Est-ce qu'il s'agit de la Jérusalem d'aujourd'hui, protégée par son dôme de fer ? Non, il s'agit ici d'une muraille et de remparts qui consistent dans le salut que Dieu donne. Et on voit qu'il ne s'agit pas là d'une construction et d'une défense et d'un refuge humain. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste. Et fidèle, ce mot « nation », c'est le mot « goï » qui, quand il est au pluriel, il désigne tout le peuple des noms juifs. Le peuple juste et fidèle, le peuple fidèle, c'est celui qui garde la foi, qui garde la foi. Il y aura une ville sûre et accueillante pour les justes. Deuxième info, la paix profonde est en Dieu. Au verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ferme dans les sentiments, l'idée de s'appuyer sur des pensées construites, sur quelque chose de certitude. S'appuyer dessus, être ferme. C'est s'appuyer sur les choses que l'on sait certaines. Tu assures la paix, cette répétition dans le mot hébreu, quand il y a, on veut insister sur quelque chose, on fait une répétition. Et ce mot est répété deux fois ici. Il s'agit de la paix profonde, de la paix à laquelle tous les hommes soupirent. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Et là, on a une idée de l'éternité. Tout change. La guerre en Ukraine est arrivée d'un coup. Personne n'avait pensé que ça prendrait des dimensions si dramatiques. Personne ne pensait qu'il y aurait une guerre en Europe d'un tel ordre, qu'il y aurait encore tant de victimes sous les bombes. Dieu, lui, ne change pas et il traverse les siècles et il est pour tous ceux qui s'appuient en lui un rocher solide, le rocher des siècles. La paix véritable est en Dieu. Troisième info, la ville des orgueilleux sera en ruine. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il l'a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pieds des misérables. Certainement ici, cette ville superbe, ces hauteurs ont un sens spirituel. Mais permettez de prendre une illustration contemporaine pour faire saisir cela. Vous savez que le président Trump, il a construit la Trump Tower dans la 5e avenue de Manhattan. 200 mètres de haut, 200 millions de dollars. Des résidences, des bureaux de luxe, l'entrée c'est un immense hall. Et tout en haut, il y a le penthouse, 1000 mètres carrés de résidence pour M. Trump et sa famille. Avec un ascenseur privé. Il y a 58 étages, mais les étages s'arrêtent à 55, et puis les trois derniers, c'est 60, 66, 67, 68. Il a voulu faire un trou là, comme s'il était largement au-dessus des autres, séparé par des étages qui n'existent pas. Et à l'intérieur, tout est doré. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Elle est foulée aux pieds par les pauvres. Le prophète Ésaïe a un message social tout le long. On ne peut pas séparer la vie spirituelle de la vie physique. On ne peut pas séparer les besoins de l'âme des besoins du corps. Et les malheureux comptent pour le Seigneur. Ils comptent beaucoup. Cette tour représente bien sûr l'orgueil humain. L'orgueil que l'on peut avoir dans nos propres vies. On peut construire nos vies comme cette tour est construite et se placer tout en haut et regarder les autres, si bas, en bas, se croire à l'abri. La ville des orgueilleux sera en ruine, la troisième information. Alors, où nous voulons être demain? Où est-ce que nous voulons être? Dans quelle ville nous voulons être? Et si on veut être dans la ville des justes, comment se rendre dans cette ville des justes? Regardons la suite. Je ne vous cache pas, il s'agit d'une prière que fait Ésaïe ensuite. Versets 26, de 7 à 19. Chapitre 26, 7 à 19. Mon âme te désire. Pardon. 7. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis le sentier du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a pas égard à la majesté de Dieu. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Ceux qui sont morts ne revivront pas, des hommes ne se relèveront pas, car tu les as châtiés, tu les as exterminés et tu as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays, Éternel. Ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu des douleurs. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, les habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. La prière d'Ésaïe. Sans prier, sans nous adresser à Dieu, nous n'irons pas loin, nous ne trouverons pas la ville des justes. Dieu dit, Ésaïe dit d'abord qu'il est d'accord avec Dieu. Et il reconnaît sa souveraineté. Puis ensuite, il fait des demandes tellement audacieuses. C'est incompréhensible que Dieu associe le juste à ses plans, à ses desseins et tout autour de ce grand récit de l'humanité. Dieu écoute et exauce les prières de son peuple. Alors, Ésaïe a le désir de Dieu. Versets 7 à 9a, le chemin des justes est la droiture, toi qui es juste, tu as plani le sentier du juste, ainsi nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements, notre âme soupire après ton nom, après ton souvenir, mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Pour Isaïe, les hommes doivent être droits parce que Dieu est droit. Dieu est droit et les hommes doivent être droits et les hommes justes s'ils sont de Dieu ont cette pensée de marcher dans la droiture. Et Dieu encourage la droiture. Il aplanit le chemin, il enlève les difficultés. Et peut-être si vous avez ce désir de marcher dans la justice de Dieu, avez-vous expérimenté contre toute attente votre chemin s'aplanir, des difficultés, disparaître. Et vous avez senti la main de Dieu avec vous. Il vous accompagne. Il éclaire, il aplanit le chemin. Isaïe exprime le désir de Dieu et il entretient son souvenir. C'est une belle façon de commencer de prier, je trouve. Et on va apprendre beaucoup de choses sur la prière aujourd'hui. Isaïe reconnaît la nécessité du jugement de Dieu. Il le dit sans détour. Nous attendons, ô Éternel, nous t'attendons sur la voie de tes jugements. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Il n'a pas égard à la majesté de Dieu. L'Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas, mais ils verront ton zèle, ton amour ardent pour ton peuple, et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Pour Isaïe, si Dieu ne fait pas respecter le droit, s'il n'y a pas de justice, les hommes ne vont jamais changer. Et ce point de vue est partagé par la majorité de nos contemporains, au moins. Il y a trop d'impunité. Voilà, on voit des voyous et ils ne sont pas punis pour leurs méfaits. Et la justice doit être rendue sans délai, sinon notre monde ne va pas. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de paix. Le jugement de Dieu ne concerne pas que les fautes que nous aurions commises. Il concerne aussi le fait que nous vivons dans un monde déchu et qu'il y a un péché partagé. Nous sommes dans une création qui est sous la malédiction à cause du péché. Et ce jugement de la création nous affecte et court toujours. Avez-vous un sentiment de culpabilité devant les hommes? Si c'est le cas, sachez que Dieu vous aime et vous cherche devant les hommes, devant Dieu et devant les hommes. Isaïe demande que le méchant change. Il demande que le méchant soit sauvé. Il demande que le méchant ici, si l'on fait grâce au méchant, il n'apprend pas la justice. Il veut que le méchant apprenne la justice. Qu'est-ce que le méchant ? Vous trouverez une belle définition du méchant, si vous voulez, dans le psaume 10. Je vais juste lire le début, mais il est très instructif sur ce que la Bible appelle un méchant. Voici les premiers versets. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux, ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Le méchant se glorifie de sa convoitise, le ravisseur outrage, méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ces pensées. Pas de punition, ça veut dire pas de Dieu. Mais moi je suis souvent, quand on voit un criminel comme Poutine, je me dis, mais pourquoi tu le gardes celui-là? Pourquoi tu le fais pas disparaître? Pourquoi il ne lui arrive jamais rien aux dictateurs? Pourquoi ils ne sont pas humiliés comme nous, nous sommes humiliés bien souvent par nos fautes? En fait, Dieu les a déjà jugés certainement. Dieu ne les cherche pas et ils ne connaîtront pas la repentance. Ils ne connaîtront pas la repentance. Ce sentiment de culpabilité devant Dieu et devant les hommes qui nous fait changer, qui nous fait rechercher le pardon de Dieu, qui nous fait changer radicalement et qui nous humilie quand nous sommes orgueilleux. La suite. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Isaïe reconnaît la souveraineté de Dieu et notre dépendance à lui. La paix vient de Dieu et elle est garantie par Dieu. On avait lu ce passage de Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 17, que je vous encouragerai à lire, que Paul a écrit 700 ans plus tard sur l'accomplissement de cet Dieu par le don de Jésus-Christ, où la réconciliation avec Dieu et la réconciliation des hommes entre eux est possible par le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix. Éphésiens chapitre 2, 14, 17. Isaïe évoque le « autrefois, quand nous étions inconvertis, dominés par nos passions et nos mauvais désirs, et le maintenant, où nous nous soumettons volontairement à Jésus, notre Seigneur. » Isaïe 12 à 14. Nous devons tout, absolument tout, par Jésus-Christ. C'est Dieu qui a conçu, qui a préparé le salut, la rédemption et son accomplissement. Tout est l'œuvre de Dieu. Tout est réalisé par Dieu le Père, par Dieu le Fils et par Dieu le Saint-Esprit. Les derniers versets, multiplie le chapitre 15, multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, se tord et crie au milieu de ses douleurs. Ainsi nous avons été, loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé. Les habitants ne sont pas venus à la vie. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera la vie aux morts. Une prière d'Ésaïe pleine d'audace. Ésaïe demande que le peuple de Dieu augmente drastiquement. Et il a demandé ici, là, et sa prière est actuellement en cours d'accomplissement. Le peuple de Dieu a drastiquement augmenté. Les païens ont été greffés en masse à la descendance d'Abraham, à travers Jésus-Christ. Tous les chrétiens sont, les chrétiens authentiques, sont des fils d'Abraham de plein droit. Galates chapitre 3, versets 26 à 28, verset 15. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste sa gloire. Cette prière pleine de hardiesse d'Ésaïe a été exaucée. Verset 16. Et ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse, ils se sont répandus à prière quand tu les as châtié. Isaïe pensait probablement à l'expérience de repentance du peuple de l'époque. Sous son ministère, il y a eu des moments de retour à Dieu. Mais c'est aussi notre expérience de chrétien du 21e siècle. Si nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons dit, nous avons compris notre culpabilité devant Dieu. Nous avons prié dans notre détresse, pardonne-moi, sauve-moi. Et nous avons cru dans le nom de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, car nous sommes après la croix. 17 et 18, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord, etc. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs quand nous enfantons, ce n'est que du vin. Le pays n'est pas sauvé. Le pays, ici, c'est le mot terre également. Et on peut très bien traduire la terre n'est pas sauvée. Les habitants ne sont pas venus à la vie. Ce qui nous parle drastiquement du travail d'évangélisation. Certes, les premiers lecteurs avaient devant eux l'absence de repentance du peuple qui allait conduire à l'exil. Et peut-être que ça nous parle aussi, nous autres, dans notre travail d'évangélisation. Où en sommes-nous de la mission que le Seigneur nous a confiée pour le salut de fait de toute la terre des disciples, nous a-t-il dit? Est-ce que notre travail porte du fruit ou est-ce que, voilà, il y a des efforts, mais il n'y a rien du tout au bout? En tout cas, Esaïe s'humilie à ce moment-là de sa prière. Mais c'est pour le verset 19, « Que tes morts revivent, que mes cadavres se révèlent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux morts. » Esaïe demande rien d'autre que la résurrection des morts. Et Dieu aussi a prévu d'accomplir cela. Tout à l'heure, je ne me suis pas arrêté sur le verset 14, ce qui dit « Ceux-ci, ceux qui sont morts, ne revivront pas, les ombres ne se relèveront pas, tu les as châtiés, tu les as exterminés. » Il ne s'agit pas du même contexte, il n'y a pas de contradiction. Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le châtiment. Notre destinée éternelle se décide de notre vivant, bien sûr. Et une fois mort, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit. » C'est dans ce sens-là, je pense, qu'il faut qu'on comprendre. Ceux qui sont morts ne revivront pas, ils ne se relèveront pas. Tu les as châtiés, tu les as exterminés. C'est quand on est vivant, que l'on peut choisir quelle ville on veut habiter. En tout cas, que tes morts revivent. Esaïe demande la résurrection des morts. Et voyons la suite du texte. On voit le verset 19. Où c'est un mélange des deux, puisque la terre redonnera le jour aux morts. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière. C'est comme si Dieu y prend la parole là et il poursuit au verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande, forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. la résurrection des morts. Paul a enseigné cette prière, que la prière d'Ésaïe sera exaucée. Plus tard, Christ est ressuscité, précédant ceux qui sont morts, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23 et verset 26. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La résurrection des morts aura lieu. Ça fera partie de l'accomplissement du salut avec la venue de la nouvelle création. Va mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Ça nous fait bien sûr passer à l'Égypte, au châtiment de Pharaon et du peuple d'Égypte lorsque l'ange exterminateur est passé et le peuple devait rentrer chez lui, mettre à mort, immoler l'agneau, mettre le sang sur les portes du linteau et l'ange de l'Éternel ne venait pas prendre le premier-né de la maison. Les textes d'Ésaïe, un petit peu plus tard, nous renseignent sur ce jour de la colère de Dieu. L'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, pour rendre la justice tant attendue. Ésaïe 63, 1-6, nous lisons ceci. Qui est celui-ci, il arrive d'Édom, de Bostra en habit rouge. Qui est celui-ci, éclatant dans sa tenue? Il s'avance avec toute sa force. C'est moi qui parle avec justice, qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve? J'ai été seul à travailler au pressoir, sans personne, d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai sali tous mes habits. En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur et l'année de mes rachetés était arrivée. J'ai regardé, il n'y avait personne pour m'aider. J'étais consterné. Il n'y avait personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a assuré le salut et ma fureur m'a servi de soutien. J'ai piétiné des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. J'ai fait couler leur sang sur la terre. Et j'en complète encore cette vision. Dans Apocalypse 14, 20, j'en vois ceci. Je vis un autre ange qui avait autorité sur le feu. Il sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille, tranche et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Cache-toi, mon peuple, pour quelques instants. Un jour, Dieu rendra justice. Satan même sera jugé. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Mais le texte ne s'arrête pas là, et je ne voudrais pas terminer sur ces paroles-là. Chapitre 27, verset 2. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien, je l'arrose à chaque instant. Il s'agit d'une autre vigne, la vigne de son peuple. Je l'arrose à chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marche contre elles, je les consume toutes ensemble. Verset 5. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi. À moins qu'on fasse la paix avec moi. L'apôtre Paul a écrit et a proclamé, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Faire la paix avec Dieu est indispensable, on le comprend. Jésus-Christ a subi la colère de Dieu à la place de tous ceux qui le prennent pour refuge et qui placent sa confiance en lui. Et ce texte de l'exécution à venir, de la colère de Dieu, nous fait apprécier d'autant plus la grâce qu'il nous fait en Jésus-Christ. Alors, quel refuge voulons-nous pour le jour de la colère de Dieu? Où voulons-nous être? Dans la ville avec ses places hautes, ses colonnes d'orgueil, ou être dans la ville des justes? Il faut faire la paix avec Dieu. À moins qu'on me prenne pour refuge et qu'on ne fasse la paix avec moi et qu'on ne fasse la paix avec moi. Ce passage nous invite également à renouveler notre vie de prière. Soit de faire la paix avec Dieu, et si on a la paix avec Dieu, de renouveler notre vie de prière et de prendre l'exemple sur Ésaïe, sur la façon dont il a prié. Bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, mais quand nous prions Dieu, nous sommes aussi inspirés par le Saint-Esprit qui habite en nous, si tant est que nous voulons bien lui laisser la parole. Seigneur, il n'est pas facile de parler de ce jour où tu rendras la justice. Elle sera sans appel. Elle sera rapide, définitive. Et ce jour-là, ton peuple sera paradoxalement dans la joie. Merci de ce que tu puniras le coupable et le méchant, et que nous pouvons être certains que même s'il semble prospérer et porter du fruit aujourd'hui, un jour, ce sera fini pour lui. Un jour, oui, il reviendra à la vie, mais pour comparaître devant toi de toute la méchanceté dont il a fait l'objet. Merci Seigneur de nous avoir permis de comprendre que c'est sérieux, le péché. Merci de faire comprendre beaucoup, à beaucoup de personnes encore, que le péché est sérieux et que tu nous donnes du fruit, que tu ne nous permettes pas que nous soyons sans fruit et que ton Église contribue à ce grand projet de salut de l'humanité. Nous, ici à Figeac. Dans le nom de Jésus. Amen.